Le destin a fait qu'en gros, suite au conseil de CAD, la semaine d'après, j'ai écrit des CV à la main et des lettres de motivation. Et j'ai séché une journée de cours et j'ai fait le tour de tout Paris pour les déposer physiquement. Et ça a été la bonne idée, parce que si je les avais envoyés par la poste, en vrai, je vois comment ça se passe malheureusement aujourd'hui, ça serait probablement parti à la poubelle ou, enfin, tu vois, de, voilà. Quoique, j'ai eu 2-3 réponses. J'ai eu une réponse manuscrite non, mais c'est cool quand même, de RTL2 et de Fun Radio à l'époque. Merci de m'avoir répondu, les gars. Et bref, je m'arrêtais au comptoir, bah, et je leur jette pas la pierre, mais évidemment, d'Europe 1, d'RTL, d'RMC, de partout, de Radio France, mais parce que j'avais les gens à l'accueil qui me disaient, mais pour faire quoi? Mais dans ma tête, c'était, bah, ce que vous voulez, je veux passer de l'autre côté de la barrière et faire de la radio, quoi.
Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un artiste multicasquette. Humoriste, il est notamment passé par le Jamel Comedy Club, Salut les Terriens avec Thierry Ardisson, ou encore la bande originale de France Inter aux côtés de Nagui. On le retrouve aujourd'hui en tant qu'acteur dans la fiction Mademoiselle Holmes, la nouvelle comédie policière de TF1. Je reçois aujourd'hui Tom Villa. Salut Tom.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Bah, très bien. Merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavrexki, dans lequel je reçois des personnalités au parcours inspirant. Et je trouve que le tien, il est à bien des égards. J'aimerais qu'on en parle ensemble.
Bah, merci.
On s'en est parlé en off, mais j'aime bien raconter un petit peu ma vie à mes auditeurs. Voilà, j'ai fait un article sur une de tes chroniques avec Guillaume Batz qui est passé dans ce podcast. Et tu m'avais remercié. Et je trouvais le geste plutôt classe, que j'ai trop rarement vu par la suite venant d'autres personnes. Donc pour ça, je te remercie. Je trouve ça marrant de se retrouver 10 piges plus tard.
Ouais, parce que tu m'as montré le message, c'était 2015. Et à l'heure actuelle, là où on parle, on est en 2024. Donc voilà, on a pris 9 piges dans les chicots.
Mais je te propose de revenir encore plus loin, non pas au début de ta carrière professionnelle, mais de ton existence, vraiment pour planter le décor. Je l'ai fait avec tous mes invités. Je voulais savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi.
Je suis né à Nogent-sur-Marne dans le 94. Voilà, le mec qui s'invente une légende, mais pourrie. Dans le 45, à Nogent-sur-Marne, voilà, j'ai été parachutiste à 7 ans. J'ai été. Non, je suis né donc à Nogent-sur-Marne. J'ai grandi principalement à Roissy-en-Brie, en 77, à côté de Pont-au-Combo, ville dont on se moque souvent quand on est humoriste.
C'est la ville des Pogba, non?
Roissy, c'est la ville des Pogba, tout à fait. Et c'est drôle parce que ma petite sœur était en classe avec Paul. Et puis, lui, après, quand il a arrêté ses études au CP, elle a...
non, mais c'est vrai. Chaque fois, j'ai une petite seconde.
Ouais, c'est bien. Non. Donc oui, la ville des Pogba, la ville de Jal aussi, tu sais, l'humoriste. Voilà.
C'est le nouveau trap.
Ah bah, voilà, trap, Roissy is a new trap, tout à fait, exactement. Donc j'ai grandi là-bas, banlieue un peu dortoir, un peu, comment dire, c'est un peu le mélange de banlieue et de campagne, c'est-à-dire que c'est pas le 93, et on a quand même de la verdure, il y a des champs, il y a de la forêt, et c'était assez cool, parce que du coup, vraiment, avec les copains, on prenait les vélos, on allait faire les cons dans la forêt, on rigolait, il y avait un truc très un peu innocent, enfin je sais pas, on était confrontés au vrai monde, parce qu'on avait le RER, on allait tout le temps aussi à Paris, les week-ends, tu vois, quand on était au lycée, on allait... les après-midi de banlieusard, on allait à Châtelet, tu vois, ou à Bastille. Voilà.
Aujourd'hui, t'aurais fait des TikTok à Châtelet, quoi.
Exact. Bah, c'est pas impossible, en vrai. Hein, tu vois, on faisait ça et puis on rentrait le soir. Donc, il y avait ce mélange de, voilà, on n'était pas loin de Paris. Et en même temps, on avait ce truc lié à la nature et tout. Donc, voilà, globalement, les débuts.
Et je crois que t'es pas du tout un enfant de la balle, j'entends par là quelqu'un qui vient d'un milieu où les parents sont exposés médiatiquement, loin de là, des métiers plutôt traditionnels, je crois.
Tout à fait, ouais, ma maman était comptable, elle a arrêté de travailler à ma naissance pour s'occuper de moi et puis après de ma sœur qui arrivait ensuite. Et mon papa, il est vendeur automobile, non, rien à voir, et grands-parents, mes grands-parents maternels étaient entre autres charcutiers et mes grands-parents paternels étaient boulangers-pâtissiers. Donc tu vois, on était plutôt dans les métiers de l'artisanat et de la bouche.
Et il paraît que si je suis bien renseigné, voilà, l'humour, ça te titille un peu, même si tu étais très timide, et que pendant les repas de famille, notamment vers la fin, quand l'alcool aide un petit peu et que les vannes fusent, style les grosses têtes,
ouais.
Bah, toi, ça te plaisait, ça?
Oui, j'adorais. T'es très bien renseigné, effectivement. Ouais, ça, je pense que ça a été les premiers éléments déclencheurs. Alors, les repas de famille et aussi les repas avec les copains de mes parents. J'ai en tête des trucs avec Fabrice, etc., où... où, ouais, c'est ça, ils adoraient se raconter des blagues. Et en plus, il a raconté bien. Et je trouvais ça fascinant de quelqu'un qui prend la parole pendant une minute, tu vois, et qui raconte un truc et ça rigole. Toute la table est morte de rire. Donc ouais, je pense que ça a été le premier truc qui m'a titillé, parce que je sais qu'après, en grandissant, justement, quand je savais, tiens, on faisait les repas avec les copains de mes parents, etc., j'essayais de préparer des blagues aussi pour moi aussi en sortir une. Et donc c'est un peu les prémices de tout ça, ouais.
Comment ça coexistait justement ce côté timide? T'as souvent raconté que en vacances, t'arrivais pas à te sociabiliser, ouais, avec les autres enfants, et en même temps, cette envie, voilà, d'attirer un petit peu l'attention, d'écrire des vannes.
Bah, il y a un moment où en fait, la timidité, c'est tu la t'essaies de la surpasser, ou sinon t'es foutu. Enfin, sinon t'es bouffé de l'intérieur. En vrai, en tout cas, la timidité comme je l'ai vécu et comme je l'ai vu encore aujourd'hui, c'est de se dire oh là là, non, faut pas que je déborde, faut pas que je me tape la honte. Si je parle si je dis bonjour et qu'il me dit pas bonjour, comment ça se passe? Puis peut-être que je vais aller le voir et puis qu'il va pas vouloir me voir. Enfin, c'est un truc qui est terrible. Enfin, quand t'es timide, c'est t'as l'air aussi, toi, assez discret. Je sais pas si t'as été timide.
Ouais.
Et non, mais voilà, donc tu vois ce que je veux dire. De oh là là.
Mais t'as un feu sacré en toi, quand même.
Exactement. Tu te dis,
et après,
allez.
Quand tu bosses, ça le réveille.
Bah oui, comme je pense quand tu fais ton podcast, tu vois, quand tu traverses ce petit truc-là, cette petite barrière. Bah en fait, essaie de faire le meilleur produit, parce qu'au fond de toi, tu sais que t'en es capable. En vrai, tu te dis, mais moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, je peux être aussi bon, si ce n'est même meilleur que d'autres. Et il n'y a pas de raison. Et en fait, et puis quand tu passes ce step-là un peu, et bah en fait, tu te rends compte que c'est largement possible. Ouais.
Et comme beaucoup de personnalités que j'ai reçues, quand elles étaient enfants, elles étaient soit timides plus,
ouais,
ou au contraire, hyperactives.
C'est vrai.
Et pour canaliser tout ça, bah, y a un bon moyen, c'est le théâtre. Et toi, ça a été un déclic, quoi.
Ah, ça a été le déclencheur. Ça a été le déclencheur. Parce qu'avec les copains, j'étais pas timide du tout. C'était plutôt la sociabilisation. Et effectivement, quand j'étais petit, quand ma mère m'envoyait chercher le pain, mais c'était l'épreuve de la journée. Enfin, c'était un truc compliqué. Donc, le théâtre a été extrêmement bénéfique. Et là-dessus, merci les copains, parce qu'ils sont inscrits. Et il y avait un truc un peu de suiveur. Bah, tiens, bah, je vais m'inscrire aussi. Et puis, en vrai, comme ça me titillait, je me suis inscrit de bon cœur. Et j'ai fait une première année en seconde. Et là, ça a été la révélation. Et comme j'ai fait une très, très mauvaise seconde, j'ai failli redoubler. Mes parents m'ont privé de théâtre l'année d'après. M'ont dit non, tu feras pas de théâtre, t'as pas bien bossé, t'as fait le con, etc. Pire année de ma vie, première, et comme je me suis amélioré, j'ai pu refaire du théâtre en terminale. Voilà.
C'était qui tes refs à l'époque? Je crois que t'es de 89 comme moi.
Oui, exactement.
C'était quoi? C'était les Inconnus, les Team Seat à l'époque, les...
Il y en a beaucoup. Moi, j'ai un souvenir, je sais pas pourquoi, j'ai un flash dans les premiers balbutiements, de remettre une cassette chez mon oncle, de Jean-Marie Bigard, et de je suis mort de rire. Mais vraiment, tu vois, c'est l'un des premiers souvenirs que j'ai. Après, je me souviens très bien, pour l'un des anniversaires de mon père, on lui avait acheté le DVD de Franck Dubosc pour son tout premier spectacle, je vous ai pas raconté, qu'il avait enregistré au Splendide, et là, je fais « Ah ouais, là, il y a un truc ». Donc là, il y a eu le premier step, il y avait évidemment les nuls, les inconnus, ça, il n'y a pas de débat. Et après, il y a eu le virage où il y a eu le Jamel Comedy Club. Ouais. Et là, on s'est dit, tiens, en fait, c'est possible d'être jeune, de ne pas être connu, mais d'être drôle. Et puis de reconnaître dans toute cette bande un peu potentiellement des copains, quoi.
Tous les gens que tu vois dans la rue, quoi.
Bah oui, c'est ça, de voir le vrai monde, la vraie France, et de se dire, bah tiens, c'est marrant parce qu'ils sont drôles, mais ils ont moins de 40 piges. Tu vois, parce que tous les humoristes à l'époque étaient déjà âgés. Tu vois, Dubosc, quand il perce, il a un peu moins de 40, si je ne dis pas de bêtises, mais il perce déjà un peu sur le tard. Team Seat, Bigard, ils n'ont pas 18 ans, quoi. Donc, ouais.
Tu l'as fait, toi, le Jamel Comedy Club?
Oui, je l'ai fait. Ouais, je l'ai
2013,
fait.
2013, avant Europe, je crois.
Oui, tu connais mieux les dates que moi, je pense. Oui, je l'ai fait rapidement. En fait, j'avais jamais intégré la troupe et j'ai jamais mis même les pieds au Jamel Comedy Club, mais je jouais déjà beaucoup au Paname Art Café. Et il se trouve qu'en fait, il y a eu une sorte de défection dans la prog. Il manquait quelqu'un à une semaine du tournage. J'ai fait une Deb Jam et puis ça a marché. Et puis, j'ai fait l'enregistrement la semaine qui a suivi du Jamel Comedy Club. Et ouais, là, il y avait un petit côté pour le timide. Tiens, la checklist, la to-do list, tiens, ça, c'est coché. Ça, c'est rigolo de l'avoir fait, ouais.
Et toujours, pour replonger un petit peu voilà, dans l'enfance, adolescence, toujours si je suis bien renseigné et si chronologiquement, je suis pas trop mal, avec un de tes potes, tu refaisais les petites annonces de Lycée Moon.
Très très bien enseigné avec Kevin, tout à fait. Bah, ça a été les premiers trucs, ça a été les premiers trucs où justement au lycée, là je vais faire le vieux de 1989, mais en gros, si t'es de la même génération que moi, donc au lycée, il n'y avait pas encore YouTube. C'était vraiment les débuts. Donc il y avait le Skyblog, il y avait le Dailymotion, et ouais, c'est ça. Et puis on avait des caméscopes encore à cassette, donc il fallait digitaliser la cassette et la transformer en numérique pour après la rentrer dans l'ordinateur. Et moi, je montais avec Windows Movie Maker, quoi.
Le fameux,
le Swiss Nomé, qui a été génial pour apprendre et tout. Donc en gros, et l'avantage des petites annonces d'Eli, c'est que c'était des plans séquences, donc il n'y avait pas de montage à faire. Et ce que je voulais, c'est que, alors je refaisais, mais je prenais les personnages, mais j'écrivais déjà quand même des nouveaux. Je ne dis pas qu'ils auraient été extraordinaires à la vue d'aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais déjà ce truc de tiens, j'ai envie d'utiliser, mais de refaire quand même du neuf et pas juste de pomper.
Et tu étais tellement déter avec la vidéo que je crois que tu as répondu à un appel que Michael Youn avait fait.
Exactement.
Je ne sais plus pour quelle chanson c'était.
C'était Mauvaise Foi Nocturne.
Avec Vito.
Avec Vito, exactement. C'était le clip qu'il a fait avec Pascal.
Ils appelaient les gens à faire leur propre clip, je crois.
Ouais, mais c'est ça. En gros, c'était concours sur Dailymotion. On a sorti la chanson, on va faire le clip. Faites-vous le clip d'abord. Et le meilleur clip, on le choisira. Et le binôme sera dans le vrai clip. Exactement, tu as très très bien renseigné. Et tu sais qui a gagné ce truc-là ? Je l'ai su qu'après, mais c'est Ludovic, le youtubeur. Et c'était Ludovic et son comparse qui avaient gagné en fait. Et ils avaient fait un truc incroyable, il y avait des effets spéciaux, il y avait des trucs. Moi bon, en vrai, quand je regarde le truc, c'était nul. Et puis c'était un peu fait à l'arrache parce que le lendemain, je partais en vacances avec mes parents. Donc j'ai dû le tourner en une demi-journée, là où il nous aurait fallu beaucoup plus de temps pour faire un truc bien. Il n'y avait rien qui allait, les décors, la lumière. J'ai fait le montage dans la nuit. À l'époque, le débit Internet était tellement lent qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté sur une clé USB. Avant de partir à l'aéroport, j'ai dit à mon père, dépose-moi chez William. Je lui ai déposé la clé USB pour que lui, il l'upload. Mais il fallait peut-être 2-3 heures pour l'uploader sur Dailymotion. Et tout ça pour ne pas gagner le concours. Donc... mais c'était une super école, c'était très cool.
Ce que tu filmais, visiblement, tu l'as présenté à Cadet Olivier.
Oui.
Un des deux, t'as donné un super conseil si vous voulez faire de l'humour votre métier, c'est la radio.
Ouais, bah c'est en fait à Cadmerade exactement, parce que à Ponto Combo justement dans le cinéma Apollo, Cad venait présenter une dernière fois le film Je vais bien, ne t'en fais pas. Il était déjà sorti, il venait d'avoir le César pour ce film-là, mais comme je sais pas, le patron du cinéma était pote avec Cad, etc. Du coup, il avait invité projection du film et questions-réponses après. Et moi, ça fait tilt quoi. Vraiment pour moi, tu vois dans les trucs les nuls c'est. Et je regardais, mais c'est pas ma génération, les inconnus non plus. Mais KDO, c'était totalement ma génération. Vraiment, je le regardais tous les samedis en début d'après-midi sur Canal. Donc, on était fans avec mon pote puis de l'époque comédie. Ça, c'est vraiment ma génération où on était dedans. Donc, on va le voir. J'avais sorti un petit DVD et je lui tends fébrilement. Il nous dit, les gars, c'est hyper gentil. Je suis pas producteur, tu vois, donc je vais pas pouvoir en faire grand-chose. Mais par contre, si vous avez envie de faire ce truc-là de l'humour et tout, génial, allez-y, foncez. Moi, ce que j'avais fait, j'ai démarré par la radio. Et il avait commencé par Oui FM, où il avait fait le Rock'n'Roll Circus avec Olivier Barou. Donc, et conseil que j'ai écouté très, très fortement.
Sport MX.
Ouais, Sport MX.
Qui avait été racheté par Europe, justement.
Ouais. Sport MX, c'est drôle, c'est une radio que j'écoutais avec mon père de temps en temps. C'était le 99.9 FM à Paris. C'était une radio que de sport. Hein. Et le destin a fait qu'en gros, suite au conseil de Cad, la semaine d'après, j'ai écrit des CV à la main et des lettres de motivation. Et j'ai séché une journée de cours et j'ai fait le tour de tout Paris pour les déposer physiquement. Et ça a été la bonne idée, parce que si je les avais envoyés par la poste, en vrai, je vois comment ça se passe malheureusement aujourd'hui, ça serait probablement parti à la poubelle ou, enfin, tu vois, de... Voilà. Quoique, j'ai eu 2-3 réponses. J'ai eu une réponse manuscrite non, mais c'est cool quand même, de RTL2 et de Fun Radio à l'époque. Merci de m'avoir répondu, les gars. Et bref, je m'arrêtais au comptoir, et je leur jette pas la pierre, mais évidemment, d'Europe 1, d'RTL, d'RMC, de partout, de Radio France, mais parce que j'avais les gens à l'accueil qui me disaient, mais... Pour faire quoi ? Mais dans ma tête, c'était ce que vous voulez. Je veux passer de l'autre côté de la barrière et faire de la radio, quoi. Et la chance, c'est que je tape dans cette petite radio Sport MX. Et la chance que c'est qu'en fait, la radio était non pas comme les grosses radios. C'était dans l'équivalent dans un appartement. Tu vois, un appartement de 150 mètres carrés. Donc celui qui m'ouvre la porte, c'est le rédacteur en chef de la radio, David Dumont. Et je lui explique. Il fait, vas-y, viens, rentre. On a discuté pendant une heure dans son bureau. Trop gentil. Et il m'a dit, vas-y, viens faire un stage. Et donc, j'ai pu faire mon stage juste après le bac, en septembre 2007. Voilà, j'ai fait un petit boulot d'été, juillet-août. Et septembre 2007, j'ai fait ce stage dans cette radio. Et là, ça a été la révélation. Parce que l'avantage, c'est que vu que c'était une petite radio, mais en deux secondes, j'ai pu tout faire. Ouais. C'est-à-dire que mais dès le premier jour, ils m'ont envoyé faire un micro-trottoir dans la rue. Le deuxième... Je disais bonjour et tout, enfin au micro, enfin c'était dingue quoi, tu vois. Le troisième jour, j'apprenais le montage, enfin c'était génial quoi.
Et je peux pas en parler en détail parce que bon, il faudrait plus d'une heure. Mais grosso modo, voilà, tu occupes plusieurs postes. C'est racheté par Europe 1.
Oui.
T'es pas assez formé, donc tu redeviens assistant. Ensuite, il y a Bompard, je crois, qui arrive, il vire tout le monde. Et là, tu commences à écrire des trucs un peu marrants. Rencontrer Kader Aoun, qui, je crois, a été important dans ton parcours.
Exactement. Il y a, en fait, le monsieur qui a été clé, c'est Nicolas Plisson. Nicolas Plisson, donc à l'époque, en gros, effectivement, là, on a avancé de quelques années. Je suis assistant d'émission et j'ai réussi en plus à gratter une petite chronique sur Europe 1, perdue le samedi après-midi dans l'émission du Top 50. Personne, globalement, n'écoute, sauf ce monsieur, Nicolas Plisson, qui est conseiller à l'époque d'Europe 1 et de Philippe Balland, si je ne dis pas de bêtises. Et il m'entend, et il m'appelle le lundi. Il me fait, bah, je vous ai entendu ce week-end, c'est pas mal et tout, on peut prendre un café. Et on prend un café avec Nicolas Plisson. Donc, pour resituer ce monsieur, qui a été, entre autres, à l'origine de Canal+, et qui est, depuis des années, un peu chercheur de talent. Tu vois, par exemple, il a, entre autres, trouvé... Hugo Clément, c'est lui qui avait entendu, si je ne dis pas de bêtises, Jamel à Nova. Enfin, vraiment, il a toujours eu ce truc de découvreur de talent et puis d'essayer d'associer les talents avec les bonnes émissions, les bons médias, etc. Et donc, ce monsieur me dit, bah, c'est cool, bon, il y a encore du taf et tout, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et à l'époque, ça faisait déjà 3-4 ans que je faisais de la radio. Et je dis, bah, la scène. La scène, c'était mon truc que j'avais envie de faire, de commencer l'humour, le stand-up. Mais sauf que je ne sais pas comment en faire, quoi. Je ne sais pas à qui aller voir. Parce que tu vas voir un bar, tu dis bonjour, je fais des sketchs. Enfin, comment ça se passe? Et donc, du coup, Nicolas Plisson m'a présenté Kader Aoun, qui a été merveilleux. Kader, on prend un café. Il me fait, bah, t'as écrit un sketch? Je dis, non, pas encore, mais je serai prêt. Il me fait, ok, bah, alors, écris un sketch et rendez-vous dans un mois. Au Panam, qui est devenu maintenant presque mythique, le Panam Art Café, tu vois, qui est un lieu de stand-up mythique. Et un mois après, j'y étais. Je faisais mes premiers pas sur scène. Et puis voilà, j'ai jamais lâché ce truc-là. Et le Panam a été la salle de boxe pour apprendre le métier. Et parallèlement à ça, moi, je continuais la radio où j'étais entre autres assistant parce que Nicolas Plisson m'avait présenté, en plus de Kader Aoun, Jérôme Commandeur, qui venait de débarquer à Europe 1. Et Jérôme cherchait un co-auteur pour écrire avec lui ses chroniques. Et on a bossé pendant 2 ans ensemble avec Jérôme. Voilà.
Et avant le grand direct des médias de 2014, je crois que tu as fait un peu de télé. Et ça, je ne l'ai pas trouvé même sur ton wiki. Moi, j'ai un souvenir de toi dans Disney Channel.
Ouais, mais c'est totalement.
Tu faisais des interviews, non?
Je faisais des interviews. En gros, pour te faire très, très courte, je bosse 2 ans avec Jérôme Commandeur. Donc, je fais la scène en parallèle. Et il y a une femme aussi qui a changé ma vie, qui s'appelle Christelle Graillot, qui était à la cellule repérage de Canal+, et qui me voit jouer au Paname, et qui me dit, c'est super et tout. On va préparer les grands castings pour la saison prochaine. On va faire une émission qui s'appelle Repérage, etc. Je voudrais que vous soyez dedans et tout. Et j'avais commencé déjà un peu à bosser et je me méfiais. Tu vois, je fais cool, mais bon, où ça va? Et puis en fait, il y a vraiment eu une émission, mais tu regardes l'émission, donc elle a plus de 10 ans. Tu fais, mais c'est dingue, elle avait vraiment le pif sur tout. Tout le monde est encore là aujourd'hui. C'est la première télé de Redouane Bougueraba. C'est l'une de mes premières télés. T'as Verino, t'as Kevin Razi, t'as Nicole Ferroni. Le casting est fou. Et c'est comme ça que j'ai pu être pris à la nouvelle édition après sur Canal+. Mais effectivement, en plus d'écrire avec Jérôme Commandeur et de faire de la scène, t'as raison. J'espère que je vais être très clair pour les auditeurs, mais en gros, j'avais été repéré. J'avais fait une petite émission sur Disney Channel qui s'appelait Starbuzz. Grâce à, tu vois, dans les rencontres et les ceux qui font des passes en avant, Kianko Jandy, qui connaissait le mec qui faisait le casting et qui a fait, ah bah tiens Tom, vas-y, fais-lui faire le casting, et j'ai été pris. Donc, et c'était des interviews, donc j'ai fait entre autres Alain Chabat, Jamel pour la sortie du Marsupilami à l'époque, j'ai fait James Blunt, j'ai fait Zendaya qui était dans la série Bella et Zendaya à l'époque de Disney Channel, John Lasseter, le patron de Pixar.
Moi j'ai ce souvenir là, ouais.
C'est vrai,
c'est le mec qui a fait Toy Story.
Exactement, voilà, on avait été le faire en Écosse pour la sortie de Rebel. Voilà, donc non, c'était très cool, très très cool.
Puis après, bon, là, j'avance dans le temps, le grand direct des médias avec Morandini, Willy Revoli, Guy Birenbaum, Thomas Joubert, les chroniques quotidiennes. Là, c'est un autre exercice. Il faut être renseigné sur tout, même si nous, on a les moyens de technologie pour le faire en temps réel, c'est plus facile. Ça, ça a été super formateur aussi. Ça a été quoi, 2 ans hein?
Deux ans, effectivement, dans le grand direct des médias de Jean-Marc Morandini. Et c'était vraiment l'émission média qui comptait à l'époque en radio. Là, il y avait une petite boucle de boucler, encore une fois, ça ne fait pas ta carrière, mais il y avait des petites croix que je cochais en cachette dans mon espèce d'agenda secret. Ma mère écoutait le grand direct des médias. J'ai des souvenirs de rentrée du collège et de Jean-Marc qui disait « Bonjour, jolie Julie », etc. Et il se trouve que 10-15 ans après, je me retrouve dans cette émission qui a vu passer qui a lancé des super humoristes. Tu vois, Mathieu Madénian a démarré par ça. Malik Bentala a été chroniqueur là-bas aussi. Enfin, tu vois, il y avait eu plein de trucs. Donc, effectivement, 2 ans dans le grand direct des médias. Ouais.
Et toi, ça a de la chance parce que chaque fois que tu fais quelque chose, il y a toujours la bonne personne qui écoute. Et ouais. Là, Thierry Ardisson qui te repère. Salut les terriens. Ouais. Le stagiaire, le CDD, c'est assez récent, je pense que tout le monde s'en souvient.
Et en même temps, c'était pas hier, c'était avant-hier. Hein, c'était, ouais.
Et là, t'as savaté un peu tout le monde pendant quelques années, hein, de rien.
Ouais. Ah ouais, là c'est vraiment le... Ouais, là, quand il y a Ardisson, ça s'est fait... Bah, en fait, tu vois, c'est une sorte de... T'es là au bon endroit, au bon moment. Il y avait, en gros, il était dans l'émission Média, il était venu en invité. Ensuite, sa femme, Audrey Crespo-Mara, est venue en invité et il suit énormément ce que fait sa femme, donc il l'a écouté. Plus Kader Aoun, qui était le bras droit de Thierry, qui a appuyé aussi largement, grâce à lui, ma candidature. Donc, effectivement, je suis le stagiaire d'Ardisson. Ça a duré 4 ans. Ça devait durer une émission. Ouais, ça a été merveilleux parce que je pense qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour être chroniqueur à l'époque. Et en plus d'être chroniqueur dans l'émission d'Ardisson, c'est ce que je dis, c'est Montréal de Madrid parce que quand tu regardes le palmarès, on n'est pas beaucoup et il n'y a que des bons. Tu vois, Gaspard Proust, Stéphane Guillon, c'est cool. Voilà. Donc, je suis très, très heureux de bosser avec d'avoir bossé avec Thierry. Ouais.
Sans oublier Baffy, bien sûr.
Et oui, non mais Baffy, enfin oui, qui est pour moi qui est évident, qui est presque indissociable, parce que quand je disais chroniqueur, parce que c'était écrit, c'était préparé, lui, Laurent, effectivement, il écrivait rien et il était plus drôle que nous, cet enfoiré, mais non, mais c'était un génie. Mais moi, j'ai des souvenirs de regarder Tout le monde en parle. En fait, c'est marrant parce que mes parents ne regardaient pas du tout, et je ne sais pas comment j'ai tilté dessus. On avait Paris Première, j'ai regardé 93 Faubourg Saint-Honoré, puis je me suis mis à regarder Tout le monde en parle, et c'était trop tard pour moi, donc du coup, j'enregistrais sur des cassettes et je les regardais. Après, enfin, c'était génial.
Pour revenir vraiment à l'humour, ton premier spectacle, il date de 2019. Donc, il y a eu une certaine période où qu'est-ce qui se passait ? Tu cherchais ton clown, tu cherchais ce que tu voulais raconter, comment te différencier des médias, mais sans trop partir loin. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là ?
Ben, en fait, j'ai commencé la scène bien avant. J'avais fait une sorte de V1 du spectacle, mais qui n'avait en vrai rien à voir, bien avant, que j'avais déjà joué un peu avant, qui s'appelait Gendre Idéal, qui était, on va dire, le premier spectacle. Mais c'est au moment où je démarre Ardisson, et du coup, il y a des gens qui viennent dans la salle grâce à ça, et je me rends compte que c'est pas du tout raccord avec ce que je fais chez Thierry. Et je sens que, déjà, c'est pas assez drôle par rapport à mes chroniques, et puis c'est pas le même ton et tout, quoi. Donc, et moi, j'ai jamais envie de décevoir les gens dans la vie. Je me suis dit, moi, c'est pas grave, en fait, faisons une pause. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter sur scène et tout? Et puis, bah, en fait, finalement, ce spectacle-là est né en 2019, à la fin de l'aventure d'Ardisson, quasiment, où vraiment j'avais trouvé ce que j'avais envie de raconter. Donc c'est pour ça que c'est le vrai premier spectacle, c'est en 2019. Ouais.
Même si tu avais écrit pour Jérôme Commandeur, c'était pas dur de te décorréler justement de l'actu chaude, de passer au crible des invités, vraiment de partir sur des thèmes sociétaux, si je puis dire.
Non. Alors après, les invités dans le spectacle, j'allais pas refaire les vannes que je faisais sur les invités à la radio ou à la télé. Dans l'actu, ça m'intéressait, mais il fallait prendre des actus intemporelles. C'est compliqué, l'actualité intemporelle, mais tu vois, par exemple, dans le spectacle, je parlais de Xavier Dupont de Ligonnès, et en fait, c'est un soap-opéra. Enfin, même là, encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, on se dit, putain, est-ce qu'on l'a peut-être encore retrouvé? Alors, juste pour vous donner, on peut donner la date aux gens.
Oui,
on est le 11 avril 2024. Donc, à l'heure actuelle, on ne l'a pas encore retrouvé. Si ça se trouve, on l'aura retrouvé dans quelques jours. Donc, c'est un truc, voilà. Donc, c'est une sorte d'actu fil rouge qui dure des années.
Ah, c'est un marronnier, limite.
Ah, ouais,
c'est comme Noël, Pâques.
Et la galette des rois. Ouais. C'est voilà, tiens, qui aura retrouvé Xavier?
Et ton spectacle, donc, il s'appelle Les Nommés Sons. Moi, j'aimais bien parce qu'il était passé à la télé. Je me souviens. La forme, donc, c'est une sorte de cérémonie, remise de récompense, etc. Et là, pour les transitions, c'était du pain béni. Tu n'avais pas à te prendre la tête. C'était les catégories et ça s'enchaînait super bien.
Ça, c'est l'idée de mon metteur en scène, Édouard Pluvieux, parce que je suis arrivé justement avec plein de trucs que je voulais mettre dans ce premier spectacle. Et il y avait plein de trucs qui n'avaient rien à voir. Alors, en vrai, comme plein de stand-up, hein, tu regardes, en vrai, quand si tu découpes un peu les thèmes, tu fais « Ah oui, ça n'a rien à voir », mais il trouvait des transitions. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de trucs totalement différents. Et donc, bonne idée d'Edouard, qui dit « Tiens, regarde, on va faire un truc », parce qu'il m'avait vu en smoking pour justement l'équivalent d'une soirée de remise de prix. Il m'a dit « Tiens, on va faire une cérémonie de remise de prix ». Ça n'a jamais été fait. Et ce que j'ai trouvé très intelligent dans cette idée, parce que ce n'est pas la mienne, c'est que du coup, ça mettait une sorte de cadre, de décor un peu, et que ce n'était pas un stand-up où j'arrive en jean basket avec un micro et je débite pendant une heure et demie et à la fin merci au revoir. Là il y avait un truc que je trouvais assez chouette, j'étais habillé, j'étais en smoking, il y avait un pupitre, je voulais jouer avec les codes de la cérémonie de remise de prix. Et après quand on a pu faire effectivement en direct sur TMC le spectacle, ça c'était une grande chance, du coup j'ai voulu vraiment pousser le truc encore plus loin et du coup exceptionnellement pour cette soirée là du coup j'avais un président d'honneur, c'était Jeff Panaclock qui venait ouvrir la soirée, j'avais un vrai remettant pour remettre un prix qui était Arnaud Ducret, et ensuite j'avais vraiment une vraie catégorie, je voulais vraiment les codes, donc les nommés sont, et avec la mosaïque avec les quatre fenêtres, et donc j'avais fait venir, était venu amicalement, et je la remercie encore, Thierry Ardisson était physiquement dans la salle, Nagui était physiquement dans la salle,
et papa.
Oui, c'est ça, mais de maman plutôt, et en duplex, Isabelle Lanty et Guillaume Gallienne. Voilà. Donc c'était cool. C'était pas mal, je suis content.
Tu parlais de Jeff Panaclock, je crois que tu allais le voir hier soir pas loin d'ici.
Oui, à Bercy. monsieur a fait Bercy, c'est incroyable. Un ventriloque qui fait Bercy, c'est... un humoriste déjà qui fait Bercy, c'est pas banal. Et en plus, un ventriloque, bravo.
Et sur la forme, ton spectacle, t'avais vraiment poussé le curseur à fond parce qu'il y avait des jingles, il y avait même la séquence est disparue de l'année, ça c'était vraiment marrant.
Ah, c'est gentil.
Et le costume, bien sûr.
Ah ouais, non mais je voulais vraiment que ça... Et puis en plus, c'était l'idée, moi j'aurais rêvé d'avoir un DVD de mon spectacle. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de DVD, donc c'est pas grave. Et je me suis dit, comment on peut le présenter, l'offrir aux gens, que le maximum de gens le voient. Et alors, c'est super les plateformes, et je ne dis pas que j'aurais pas de spectacle en plateforme, mais je voulais que le premier, ça puisse être vu par le maximum de gens. Et donc là, TMC, tout le monde a TMC. Et en plus, je voulais absolument le faire en direct parce que je trouve que ça rajoute ce petit piment pour ceux qui le regardent chez eux, de tiens, est-ce qu'il va se vautrer, est-ce qu'il va se passer un truc. Enfin, t'as vraiment un petit sentiment de spectacle vivant malgré le fait que tu sois dans ton canapé, quoi.
Et tu parlais des humoristes qui viennent en jean basket, et moi je te parlais du smoking, je voulais savoir si dans l'humour, ce côté un peu travestissement, ça a aidé pour la gestuelle, camper un personnage, enfin pour toi, en tout cas dans le spectacle, est-ce que ça t'avait aidé?
Oui, de moins en moins, mais comme j'ai une tête assez juvénile et de genoux, en plus le costume, d'avoir un vrai costume avec un nœud papillon, une chemise, etc., me permettait de... C'était un autre costume, donc du coup les gens ils disaient « Ok, c'est un personnage quoi ». Enfin, ils comprenaient que c'était un personnage et que c'était pas forcément le vrai moi, et que c'était un spectacle, là où des fois, effectivement, la frontière, quand tu t'habilles en jean basket, enfin comme dans la vraie vie, les gens peuvent presque confondre spectacle et conférence. Donc là, c'était... Et puis, j'aime bien être bien habillé aussi sur scène. Mais je trouve ça important. Les gens, ils sont venus, ils ont payé leur place, ils ont réservé leur soirée, tout est organisé autour de toi. Je trouve ça, j'ai été trop souvent déçu en voyant une affiche et de voir le mec arriver en t-shirt. Tu fais... T'as un beau costume sur l'affiche, t'arrives en tong, c'est pas cool, quoi. Donc, ça me tenait à cœur de faire ça.
Et en termes d'humour pur, un côté doux, amer, je trouve qu'il te caractérise bien. Et tout à l'heure, on parlait de Baffy, tu pouvais balancer des trucs assez violents, mais dans l'œil, on voit que c'est pas un règlement de compte, quoi.
Ah, cool. Ça veut dire que c'est gagné. Pour moi, c'est ça le plus important, et c'est ce qui permet d'aller le plus loin. Et souvent, on pose la question de est-ce qu'on peut rire de tout et tout. En fait, ça passe par là, ça passe par l'œil. Et si tu vois dans l'œil qu'il y a un côté tout pour la vanne, c'est ça le plus important, je pense.
On va parler de fiction de Mademoiselle Holmes, donc, qui est diffusée à partir de ce jeudi 11 avril, donc le moment où on enregistre pour 6 semaines, je crois.
3 semaines, 2 épisodes par soir.
Parce que la fiction, mine de rien, c'est une part importante de ta vie. Du coup,
ça le devient, c'est chouette.
Qui est des rôles. Est-ce que tu peux nous pitcher, tout simplement? Je sais que cet exercice est horrible.
Non.
De quoi parle la série?
La série Mademoiselle Holmes, ça se passe à notre époque, 2023-2024. Charlie Holmes, policière dans un commissariat du côté de Nantes, en Loire-Atlantique, est un peu à la fois sous-exploitée par le commissariat, pas très bonne flic, elle est vraiment, elle est un peu endormie, tout simplement. Et il se trouve que, dans le premier épisode, je ne vais pas un grand spoil, hein, mais il va lui arriver un petit accident. Et là, tout d'un coup, tous ses sens vont être révélés, puisqu'en fait, elle s'appelle Charlie Holmes. C'est l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes. Et là, tout d'un coup, tous les sens de son arrière-grand-père, elle va les avoir, les intuitions, les bons trucs. Et donc, voilà. Donc là, tout d'un coup, ça va devenir une bien meilleure policière. Et tout le commissariat ne va rien comprendre à comment, en un claquement de doigts, quasiment, elle est passée de pas terrible à super flic. Et moi, je suis Samy Vatel. Je suis stagiaire légiste et on va me mettre en binôme avec Charlie Holmes. Donc, effectivement, il y aura un petit côté Holmes-Watson reconstitué. Et voilà. Et le grand-père de Charlie Holmes, donc le fils de Sherlock, qui est interprété par Daniel Prévost, Charlie Holmes et Lola Dever, et entre autres Thomas Jouenet, Alika Del Sol, Armel Abibou et beaucoup d'autres dans cette nouvelle aventure. Ouais.
Alors la petite particularité, tu l'as dit, c'est que Charlie Holmes est la descendante de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes qui est un personnage fictif pourtant,
ouais,
né de l'imagination de Arthur Conan Doyle. Qu'est-ce que tu penses tout simplement de ça, d'en faire un véritable personnage ?
Justement, il y a un truc intéressant dans cette série, c'est qu'on se dit tiens, c'est un personnage et en même temps, il y a les bouquins. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu justement une frontière qui est assez rigolote. Moi, je trouve ça cool. Et puis ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'en plus déjà de un, ça se passe à notre époque. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup été exploité dans l'univers de Sherlock, dans tout ce qu'il y a eu, dans tous les films, la série Enola Holmes avec la petite sœur, etc. Là, ça se passe vraiment à notre époque. On dit qu'il y a une branche française et quand vous allez voir la série, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je trouve qu'il y a une vraie plus-value et un vrai truc différent de tout ce que vous avez vu. En même temps, tous les codes, si vous aimez Sherlock Holmes, vous allez retrouver les Moriarty et plein de références au livre. Évidemment.
Le fameux Deer Stalker, là, le petit chapeau de chasse. Et d'ailleurs, je trouve ça marrant de prendre les codes des énigmes de Sherlock Holmes qui ont été écrites à la fin du 19e, début 20e, et de les transposer, de les faire coexister avec les sujets de société actuelle, problèmes psychologiques, les influenceurs, ouais, etc. Ça doit pas être facile pour les scénaristes, toi, qui écris.
Oui, alors là, j'avoue que moi, j'ai pas du tout écrit sur cette série. Mais oui, je pense qu'en tout cas, c'est évidemment important aujourd'hui, quand on fait une série, d'être pleinement dans la société. Donc oui, effectivement, il y a un épisode sur les influenceurs. Et c'est dans notre actu à nous. Donc ça doit être dans l'actu qu'il y a dans la série pour vraiment coller au plus près.
Donc Charlie Holmes, c'est quelqu'un d'énergique, brillante, imprévisible, limite hypersensible.
Ah, totalement hypersensible, oui.
Toi, un personnage un peu plus normal, avec des gros guillemets.
Oui.
Mais qui a une épaule aussi pour l'aider, pour contrebalancer, et ce qui crée des gros moments de drôlerie, quoi, tout simplement.
Ah, cool. Oui, c'est qu'en fait, effectivement, au début, elle est un peu endormie, et puis au fur et à mesure du temps et des épisodes, elle se réveille, et elle est un petit peu, ouais, pleine d'énergie, un peu débordant d'énergie, je dirais que c'est ça. Et moi, au contraire, je suis plutôt extrêmement timide. Donc, j'essaie de la canaliser. Et en plus, comme je suis le seul du commissariat à avoir fait des études de médecine, je suis le seul à comprendre que, effectivement, là, elle est en train de faire des choses avec sa santé et il faut se méfier. Donc, je suis le seul à percevoir que tout le monde dit « Oh, elle est rigolote !» Non, elle n'est pas que rigolote et il se passe des trucs dans sa tête. Donc, effectivement, du coup, il y a ce binôme qui est très, très chouette et c'est assez rigolo d'être, du coup, le clown blanc du duo.
Donc, tu l'as dit, elle, c'est une descendante directe des Holmes, il y a les Moriarty, etc. Mais toi, ton personnage, t'es le Watson par ta position dans le binôme, oui. Mais tu n'es pas un descendant.
Ah, je suis pas un vrai Watson.
Des Watson, est-ce que dans le jeu, ça aide, ça enlève une pression, ça donne un peu plus de liberté?
Oui, totalement. Ah oui, c'est le gros avantage. Ah oui, c'est de... Bon, après, déjà, je pense que, comme Charlie Holmes est une femme, déjà, je pense que Lola aussi, ça l'a déstressée par rapport à ça. Mais effectivement, moi, n'étant pas un vrai Watson, il y avait tout à inventer. Et en même temps, du duo, dans la série, je suis celui qui connaît le plus tout cet univers. Donc, du coup, moi, je suis un peu comme un gamin à Disneyland dans tout ça, quoi.
Ouais, parce que ton personnage est fan.
Oui, je suis un grand fan de Sherlock. Donc, la première fois que je me retrouve face au fils de Sherlock Holmes, je suis comme un gamin, un lapin ébloui dans les phares d'une bagnole, quoi.
Je connais pas toute ta filmo, mais t'as joué des mecs beaucoup moins sympas par le passé.
C'est vrai.
Ça a dû te changer un petit peu. Ouais.
c'est là où c'est chouette. C'est qu'effectivement, en fiction, j'ai eu des rôles où je jouais un peu le petit con. Il y a eu deux films principalement. Il y en a eu un où, pour l'honneur, où j'étais le petit méchant de l'histoire. C'est le film de Philippe Guillard avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy, là, qui était sorti il y a un ou deux ans. Donc j'étais un peu le salopard de l'histoire. Donc ça, c'était assez chouette et rigolo à faire. Puis il y avait eu aussi La dérive des continents de Lionel Bayer, où alors là, c'était plus perfide. Je jouais le bras droit, conseiller spécial du président de la République française, Emmanuel Macron, une sorte de un peu à l'époque de Gabriel Attal. Et on a tourné ce film en Sicile. Et en gros, on vient préparer avec mon homologue allemande la venue de nos deux présidents français et allemand dans un camp de migrants. Et en fait, c'était super parce que c'est une espèce de comédie un peu satirique où on mettait le doigt aussi sur, en fait, tout est préparé, quoi. Quant à Macron qui va en déplacement à tel ou tel endroit, t'as des gens qui sont venus avant déjà pour la sécurité, pour voir si tout est aux normes, et puis pour aussi préparer qu'est-ce qu'on va montrer aux journalistes. Donc c'était intéressant de montrer cette façade-là via le cinéma. Ouais.
C'était le film avec Isabelle Carré, ça.
Exactement.
Ouais. Dans Munch, ça se prononce comme ça, ouais. Munch. Là, par contre, c'est l'inverse opposé. Tu joues Dominé, presque. Un fils à papa qui doit jouer des coudes pour s'imposer, qui se fait un peu marcher dessus.
Première saison, j'arrivais un peu en roulant des mécaniques, un peu sûr de moi. Genre, non, mais moi, j'ai envie de faire du droit du droit pénal. Enfin, vraiment, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et en fait, on se rend compte que le personnage est plus fragile que ça et qu'en fait, il est un peu malmené par son père, etc. Et du coup, il est pris sous l'aile de Munch, d'Isabelle Nanty et de Lucien Jean-Baptiste aussi. Le personnage est devenu plus tendre qu'il n'était au tout début ou même où j'ai passé le casting où à la base, c'était juste un mec un peu imbu de sa personne et tout. Et c'est au fur et à mesure du tournage avec Isabelle que c'est devenu ça aussi, ouais.
Isabelle Nanty, puisqu'on parle de fiction, je crois vraiment que c'est une personne importante dans ta vie.
Ah ouais. Je pense que c'est l'une des plus jolies rencontres que j'ai eu la chance de faire. En plus, on a fait 4 saisons de cette série. On a fait donc 32 épisodes. Donc, 32 épisodes de 50 minutes, c'est comme si on avait fait 16 films ensemble, tu vois. Donc, ça crée vraiment des liens. Ouais, ça a été formidable. C'est vraiment... Et puis, qu'est-ce que j'ai appris juste en la regardant C'était vraiment une chance folle et j'ai la chance de l'avoir toujours dans ma vie et je l'aime très très fort. Ouais.
T'as d'autres projets de fiction là, prochainement ?
Oui, il y a des projets de... déjà, potentiellement, il y aura peut-être une suite à Mademoiselle Holmes. Voilà, ça c'est dans les tuyaux.
Donc,
oui, complètement. On espère, maintenant on espère que ça va plaire aux gens et qu'il y aura une suite. Donc ça, après, on a écrit un truc avec Arnaud Ducret qui devrait arriver prochainement. Donc ça, mais c'est un peu plus Arnaud qui porte le projet, donc je lui laisserai la primeur d'annoncer ce truc-là. Mais oui, là, ça a été une année où à la fois de tournage et beaucoup d'écriture. J'ai écrit une pièce de théâtre aussi. Ça, j'ai très envie de le faire. Et le temps que les projets se montent, c'est long, mais c'est chouette.
T'avais écrit son spectacle, Arnaud Ducret, enfin, co-écrit.
Oui, co-écrit avec lui, tout à fait. Oui, on avait écrit exactement. Ça, pareil, une très belle rencontre. C'est un comédien très fort. Je trouve qu'il est capable de jouer la comédie et de jouer les drames et de la même intensité, on y croit. Et c'est pas si banal. Tu vois, il a joué, entre autres, Xavier Dupont de Ligonnès. Tu vois, il a dans Monsieur Je sais tout. C'est un rôle assez sombre aussi. Et il est capable de faire la grosse comédie comme Mercato, la série sur TF1, comme Divorce Club, etc. Donc, grand acteur, Arnaud Ducret, ouais. Et super humoriste.
Ça fait un petit moment maintenant que tu navigues entre l'écriture, les médias, la fiction. Comment tu trouves le temps, tout simplement ? Parce que là, tu as un calendrier qui est rempli.
J'ai eu, bizarrement, là, ce qu'il y a de chouette, c'est que j'ai retiré un peu des trucs de mon agenda pour me laisser le temps de plus vivre de choses. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, je pense que les années où c'était le plus rempli, c'était les années où, parallèlement, j'avais la radio sur France Inter dans l'équipe de Nagui, quasiment tous les matins. Et j'avais une fois par semaine Thierry Ardisson, Salut les Terriens. Et en plus de ça, je tournais Munch, la série avec Isabelle Nanty. Donc là, ça rentrait au chausse-pied, mais je me suis vu, par exemple, aller sur le tournage de la série de, 6h30 au maquillage, jusqu'à 10h30, on tourne quelques séquences, 10h45, je suis sur une moto-taxi. 11h, je fais l'émission sur France Inter. Pendant ce temps-là, eux, l'équipe technique de tournage, ils déjeunent. Je reviens à 13h après l'émission de radio sans avoir mangé. On retourne, donc je mange un sandwich entre deux prises. On continue le tournage. Et pendant ce temps-là, le soir, quand je rentre, et après avoir fini à 18-19h, j'écris la chronique radio ou télé du lendemain ou du surlendemain, etc. Donc là, c'était génial, mais pas le temps de profiter. Tu sais, le fameux truc où à 19h, à la fin du tournage, bah comme dans plein de boulot, mais t'as des équipes, « Oh, on va boire un coup, les gars, et tout. » Et tu fais, « Bah, j'adorerais, mais je peux pas parce que je dois écrire 12 chroniques pour après-demain. » Donc, c'était génial. Si c'était à refaire, je referais tout pareil, mais c'est vrai que pas le temps de profiter des choses. Donc là, du coup, effectivement, j'ai décidé, après de nombreuses années, tu vois, de calmer un peu le jeu sur la radio, que j'adore, qu'un média que j'adore, mais là, on est parti pour le tournage de Mademoiselle Holmes, 3 mois à Nantes, ça aurait été compliqué, quoi. Et puis, en plus, en tournant, tu vois, sur 60 jours de tournage, je tournais 55, c'est compliqué de tout jumeler, et puis de tout bien faire aussi. Ça, c'est vraiment un truc que j'essaye, plus le temps passe, d'essayer de tout bien faire. Donc, il y a un moment où si tu fais trop, tu ne peux pas tout bien faire, donc il faut retirer des choses dans l'agenda. Donc là, du coup, effectivement, cette série, tu vois, on l'a tournée il y a un an, mais entre-temps, il y a le temps largement d'écrire des choses et de prendre le temps de vivre aussi, quoi, de vivre des expériences pour ensuite les mettre dans des séries, des films, des spectacles.
Et dis-moi si je me trompe, mais je m'entretiens avec beaucoup de personnes et tous ceux qui, justement, ne sont pas des enfants de la balle. Là, récemment, par exemple, j'ai eu Nicolas Duvauchel qui a été découvert dans un club de boxe, justement, pas très loin d'ici. J'ai eu Florent Bernard, Flaubert, qui a sorti son premier
Nous
film.
Les Leroy.
Nous les Leroy, qui est exceptionnel. C'est des gens qui ne viennent pas du métier. Et justement, pour exister par peur que ça leur échappe, ils multiplient les projets.
Ouais. Enfin,
du moins, ils l'ont fait un temps. Et maintenant qu'ils sont un petit peu plus installés, ils arrivent un peu plus à choisir.
Ouais.
Est-ce que c'était ton cas aussi? C'est pour ça que tu te mettais une telle pression?
Mais totalement, totalement. C'est la plus grande peur de... Tout ça, c'est quand tu viens pas de là-dedans, enfin même quand tu viens de là-dedans, mais peut-être que tu en as encore plus conscience, c'est que tu as toujours peur que demain matin, il y a un... Oui ? Non, pardon, on s'est gouré de personne, c'était pas du tout pour vous. En fait, ah bon, tout ça, ouais, donc que tout puisse s'arrêter du jour au lendemain. Et puis je l'ai vu sur des carrières de d'autres personnes, des gens qui sont au top, au firmament, pour X, Y raisons, qu'ils le sont moins ou plus aujourd'hui. Donc ça fait peur. Mais moi, je le sais, on a tous une date de péremption pour moi, sauf qu'on ne la connaît pas. Donc ça peut s'arrêter demain, ça peut s'arrêter dans 2 ans, ça peut s'arrêter dans 10 ans. Mais entre autres, c'est pour ça que la fiction est chouette, c'est que la fiction, ça peut durer plus longtemps. Mais c'est vrai qu'humoriste, quel humoriste a fini sa carrière au top du top? Il n'y en a pas beaucoup, en vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Je dirais peut-être, allez, Guy Bedos, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des gens qui ont rempli des salles, les salles les plus grandes, et puis après, pouf, pouf, c'est comment se renouveler. Tu vois, là, moi, aujourd'hui, je suis impressionné par une femme comme Florence Foresti, parce que là, elle en est à son 7e spectacle. Les 7 spectacles, ils sont magnifiques. Et je pense que l'un de ses secrets, c'est le temps. J'ai l'impression, je la connais très très peu, mais qu'elle fait projet par projet. Voilà, elle fait un spectacle.
Okay. C'est par pipa, ouais.
Exactement. Une série, épilogue. Voilà, claque. Et puis, elle prend le temps de vivre des choses. Et non, elle est... Bravo, Florence Foresti.
Là, pendant 1 heure, j'ai parlé vraiment de ton parcours et de ses réussites, parce que là, si on écoute un peu ce qu'on enregistre ensemble, tu fais un truc, coup de téléphone, viens et tu gravis les échelons, mais il y a eu aussi des échecs.
Eh oui, oh oui.
Est-ce que, voilà, c'est compliqué à encaisser, quand on vient pas de là, est-ce qu'on se remet en question, est-ce que ça se passe tous ces moments, quoi. Il y avait de beaux projets qui n'ont pas forcément marché. Là, celui qui me vient à l'esprit, c'était Ring Comedy Club.
Ah oui, le Ring Comedy Club.
Qui était sur les plateformes France TV.
Sur France.tv.
En gros, c'était, je me suis noté, un ring de boxe où tu campais Monsieur Loyal. Il y avait des équipes de 3 humoristes qui se balançaient des vannes comme les Rap Contenders. Et moi, à mon humble avis, si ça n'a pas marché, c'est que c'était sur les plateformes France Télé. Et les gens n'ont pas l'habitude d'aller sur ça, quoi, alors que c'est gratuit sur la boxe. C'est juste limite une question d'habitude, c'est le programme.
J'en suis assez convaincu, mais merci France.tv d'avoir osé. Pour le coup, ce projet, je suis assez d'accord. Et c'est ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, c'est que c'est pas le tout d'avoir le bon projet, mais si t'as pas le bon tuyau pour le diffuser, et bah, c'est compliqué. Et le problème, c'est que France.tv, c'est super, c'est gratuit, Mais sauf que c'est pas dans l'habitude des gens. Le problème, c'est sur quel canal tu le mets, tu vois, parce qu'on aurait pu le mettre que sur YouTube, mais sauf que bah, il faut l'argent pour produire cette émission. Et ça, on l'a eu grâce à France Télévisions, en fait. Donc, si on l'avait fait sur YouTube, ça n'aurait pas eu la même forme. Alors après, peut-être qu'on aurait pu trouver des sponsors, des trucs, mais oui, je suis d'accord. Oui, ça fait partie des trucs qui ont été très, très peu vus. À la limite, c'est pas ça le plus grave. Moi, ce que j'essaie de faire, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais c'est ce que je me dis toujours, ça sera vu, ça sera pas vu, mais en tout cas, j'en ai de content et fier. Et le Ring Comedy Club, c'était vraiment cool, c'était chouette. Il y avait, je sais pas combien on était, il y avait 40 humoristes différents.
Guillaume Batz, je crois, Rosa Bernstein.
Exactement, Pierre Thévenoud, entre autres, Michael Youn, Benjamin Morgan, Vincent De Zagna, Maxime Gasteuil, Yann Guillard, enfin, tu regardes, il y avait... C'était
les Avengers, quoi.
Ouais, non, mais c'était cool. Et puis surtout, parce que moi, je les vois tout le temps, ces gens-là, dans les comedy clubs, et je les connais. Mais ce qui était chouette, c'était de voir que, bah, on s'est pas gouré, parce que tu vois, il y en a plein qui étaient un peu au début de leur carrière médiatique et qui sont devenus, tu vois, Pierre Thévenoud, quand on le prend à l'époque, c'est pas le Pierre Thévenoud d'aujourd'hui. Donc c'est cool. Mais il était marrant. Donc il avait tout à fait sa place. Donc voilà.
Et sans faire de politique, je trouve qu'à une époque là où la France est complètement fragmentée, là, il y avait vraiment. Des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des arabes, des petits, des grands.
Des handicapés, des... Ah non, ouais, ça a été... Ça, tu vois, c'était un des trucs... Bah déjà, nous, on y tenait avec le producteur Benjamin Morgan et Lionel Dutemple. En plus, en étant sur France Télévisions, c'était extrêmement important. Mais ouais, le casting a été pas si simple, parce qu'il y en a plein qui ne voulaient pas faire le truc. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand tu as envie de faire un truc et que tu veux l'équité ou quasi l'équité homme-femme, et puis qu'il n'y ait pas que des blancs et tout, ça devient un peu un casse-tête parce que de l'extérieur, des fois tu vois des projets, tu fais ah bah d'accord, il n'y a que des mecs blancs. Bah ouais, mais peut-être que vous ne savez pas qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas voulu faire ce truc-là ou qu'il y a des gens, enfin tu vois. Donc c'est pas si simple d'avoir tous les talents et en plus que ça représente la société française.
Tu connais la phrase de Michel Drucker, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain.
Ouais, tout à fait.
Après avoir déroulé. Ton parcours, c'est complètement ça pour toi, finalement.
Ouais, ouais. Et il m'avait dit un truc aussi, une carrière, c'est tout en faux plat. Référence au cyclisme. Et c'est vrai. Dans nos générations, on voit des gens éclater quasiment du jour au lendemain. Mais c'est très rare. C'est très rare. Tu vois, il y a eu... dans ma génération, il y a eu Kev Adams, qui a été star très, très rapidement. Jeff Panaclock a été star très, très rapidement. Inès Reg, ça a été fulgurant, tu vois. Après une vidéo, mais il faut savoir que tous ces gens-là, Jeff, il a fait, pour bien le connaître, tous les cabarets de Paris, il a rodé son truc, etc. Donc pour nous, de l'extérieur, on dit qu'il est star du jour au lendemain, mais en vrai, ça faisait déjà 5 ans qu'il bossait, qu'il rodait son rôle. Kev était très jeune, mais déjà, ça faisait quand même un an ou deux. Enfin, il y a eu toute une accumulation de choses. Et puis, il y a eu On ne demande qu'à en rire, où c'est le bon moment. Inès Reg, c'est pareil, c'est l'alignement des planètes, mais ça faisait déjà longtemps qu'elle faisait du stand-up. Quoi.
J'ai toujours en tête un exemple perso, c'est Jonathan Cohen qui actuellement, il ne touche plus le sol, là, il est en lévitation, tout le monde l'adore. Et je me souviens, je l'avais interviewé, mais il était inconnu il y a 10 ans, avec un film avec Julien Doré, je pense que je suis le seul mec de France à avoir vu ce film.
Ah oui, sur le groupe de rock, là.
Pop Redemption.
Ouais.
Et le gars, je l'avais trouvé bien marrant dès le début, mais voilà, il est charbonné dans son coin et c'est des mecs qui explosent quand il y a un facteur chance aussi du boulot. Et...
Ouais, c'est le bon projet au bon moment. Moi, je me souviens quand je proposais un programme court à Canal à l'époque, ils me disaient ah, « on veut Jonathan Cohen, on veut... » Mais c'était à une époque où ça devait être à peu près dans cette... C'était il y a une dizaine d'années et il n'était pas du tout connu, mais ils avaient déjà senti le talent du mec. Et puis, il y a eu ce bon timing de « tiens, le personnage de Serge Lemiteau dans « Bloqué », puis le spin-off Serge le Mytho, et puis après, La Flamme, Le Flambeau. Plus, moi, je crois beaucoup à choisir les bons médias, les bons trucs. Tu vois, il a été formidable avec McFly et Carlito dans 2-3 vidéos. Donc, tout d'un coup, il touche un autre public. Et puis, ouais, c'est l'alignement des planètes. Mais c'est pour ça. Il y avait ce truc, on a envie que ça marche rapidement. Et puis, moi, quand j'étais plus jeune, on me disait « Ah, mais t'as le temps ?» Non, on n'a pas le temps. Mais... C'est là où il faut trouver, c'est un marathon aussi, comme disait Drucker, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses et puis de se tromper aussi. Vraiment, c'est pas une connerie, c'est sur les erreurs ou les trucs qui marchent pas où t'apprends le plus, quoi. Vraiment, c'est pas sur les succès, quoi. Au contraire, des fois, les succès, ça peut te monter à la tête. Non, c'est sur les erreurs, quoi.
Tu parlais des gens qui explosent du jour au lendemain. Alors, contrario, ça peut être aussi on peut être un feu de paille, quoi. Genre, comme ces artistes, les One Hit Wonder, il y en a plein en Angleterre qui ont fait un tube et qui après est terminé.
Ouais.
Toi, c'est peut-être plus lent, mais c'est plus sain aussi, finalement, petit
ah ouais.
à petit. Parce qu'il y a eu bon, tout ce que tu as fait dans les médias, il y a eu le spectacle. Pendant le Covid, je me souviens, tu avais charbonné, tu avais fait plein de vidéos. Et petit à petit, tu grattes. Et,
Ouais, il n'y a pas de. Voilà, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est pas. Enfin, dans le sens où je n'ai pas été une star du jour au lendemain. C'est progressif. Et bah, très bien. Justement, comment fabriquer un parcours de façon un peu intelligente, et encore une fois de faire que des trucs qui sont chouettes, et quand je regarde pas souvent derrière, mais si on justement lors d'une interview et tout on reparle de choses, je suis fier de globalement tout, quoi. Donc ça, c'est le plus important. Mais effectivement, c'est la grande différence avec l'humour, c'est que en musique, Patrick Hernandez, ça fait 45 piges qu'il chante Born to be Alive et c'est toujours un tube. Et c'est génial. Nous, en humour, faut qu'on se renouvelle, mais bon, c'est chouette aussi.
Toujours un tube où il est auteur, compositeur, producteur, interprète.
Éditeur ou pas ?
Ah, ça, je sais pas.
Mais oui, oui.
Mais ça, il est bien toute sa vie, quoi.
Ouais, mais alors attends, combien de Patrick Hernandez il y a dans le monde ? C'est sur une chanson, ouais. Un tube international, il y en a pas beaucoup non plus, mais c'est imparable. Moi, j'ai été voir le concert Star 80 à Bercy, là, il y a 15 jours. C'est la deuxième chanson du show, mais tout le monde se lève d'un seul homme, t'as 15 000 personnes qui se lèvent sur Born to be Alive et on est comme des fous, quoi.
Pour revenir à ton parcours, je crois que pour le futur, en tout cas, t'as envie que la fiction prenne plus de place.
Oui.
Tu sais un peu ce que tu veux faire ou...
Non, j'ai envie que la fiction prenne plus de place. Après, l'avantage, c'est que fiction, maintenant, bah, entre la télé, les plateformes, le cinéma, il y a de plus en plus de canaux possibles. Donc ça, c'est cool.
Et les passerelles sont plus faciles. À une époque, on n'envisageait pas les acteurs de ciné dans des séries, quoi.
Ouais, et regarde, en même temps, José Dayan, elle le faisait déjà à l'époque. Elle faisait déjà venir à Adjani sur Les Rois Maudits. Elle avait déjà des castings fous. Moi, je crois que c'est vraiment les projets qui permettent de croiser les gens ou pas. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais c'est... Et puis les choix aussi, tu vois, il faut faire les choses, mais... Peut-être un temps, tu vois, par exemple, quand on prend des exemples comme Julie Lescaut, ça a duré tellement longtemps, c'est tellement emblématique qu'effectivement, bah, le problème, c'est qu'après, on ne la voit pas ailleurs dans un autre rôle, quoi. Donc, c'est important de faire un rôle et de bien le faire et que les gens nous aiment, mais il faut aussi proposer d'autres choses pour ne pas s'enfermer là-dedans et n'être le héros que d'un seul rôle.
Quand c'est trop incarné, après, c'est terminé, comme les mecs qui ont fait des Harry Potter, tous ceux qui ont fait Star Wars.
Et en même temps, c'est génial. Alors, ouais, c'est totalement... on a envie de ça, et en même temps, effectivement, t'es un peu... Mais regarde, en fait, autant des gens comme Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker dans Star Wars, bon, bah, globalement, c'est l'homme d'un seul rôle. Et Harrison Ford, il a fait je sais pas combien de films. Tu vois, on le voit là dans les Star Wars plutôt récents. Daisy Ridley, moi perso, je l'ai pas trop vu dans d'autres trucs encore, mais
elle est revenue récemment dans un.
Oui, j'ai vu. Et mais il y a l'autre là qui joue tellement de trucs dans les qui avait fait Black Moon et tout.
Ouais, le pilote là.
Exactement. J'ai plus le nom, mais bon, on le voit dans plein de trucs aussi. Donc et puis j'ai l'impression que ça s'ouvre, je sais pas, c'est vrai que quand tu fais des trucs forts, comme Daniel Radcliffe, Harry Potter, t'as celui qui avait joué Twilight aussi, mais lui qui a fait plus de trucs. Ça. Ouais, bon, là, on n'y est pas encore, hein, donc on va se calmer là-dessus.
Tom, pour conclure cet entretien, quelques petites... Putain, j'ai l'accent du Sud qui est ressorti là, quelques petites questions en rafale.
J'adore le Sud.
Pour te connaître sous un prisme différent, des questions beaucoup plus légères. Je voulais savoir tout simplement si tu avais une routine matinale incontournable.
Oui, je me lève, je me brosse les dents, je fais pipi, je prends une douche, je m'habille, je mange un truc et je bois un café. Voilà. Globalement, la routine. Et avant, j'étais fumeur et c'était le café clope. Mais je ne fume plus, donc là, c'est que café.
J'ai écouté ton podcast avec Rosa Bernstein.
Ah,
ou en pleine interview, carrément, tu demandes si tu peux cloper à la fenêtre, quoi.
C'est vrai?
Ah, putain. T'étais un gros fumeur?
Ah ouais, j'étais un gros fumeur. Ouais. Je fumais quasiment un paquet par jour pendant 10 ans, 15 ans. J'ai arrêté il y a 2 ans.
C'est qui ton petit coup de cœur là dans l'humour en ce moment?
Alors, tu sais quoi, je vais pas être très original, mais je l'écoutais déjà quand il était chez Nova, Benjamin Tranier. Mais c'est pareil, tu vois, Benjamin, il a beaucoup, beaucoup bossé. On a l'impression qu'il est révélé maintenant, mais en fait, non, ça fait juste 5 ans qu'il a fait sur Nova des trucs. Il a fait ses podcasts aussi sur Tranier Raconte, etc. Donc, en fait, il a fait son premier spectacle. Donc, c'est voilà, 10 ans pour être connu du jour au lendemain, ça va bien à Benjamin. Et il explose vraiment maintenant, il cartonne avec son spectacle. Mais moi, il me faisait déjà crever de rire quand il faisait le beauf il y a 5-6 ans. Donc, ça, c'est cool. Stand-up, dans tout ce que je vois sur Instagram, j'ai l'impression de voir un peu toujours la même chose. Je vois que des moments d'impro, de gens qui taillent le public. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont été inspirés par la réussite de Redouane Bougueraba, et ils ont raison, mais du coup, je vois pas grand-chose de différent ou d'original, quoi. Voilà. Donc, et moi, j'aime bien, pour avoir été à l'école, entre autres, Kader Aoun, Ardisson, Guillaume Proust et tout, j'aime bien quand c'est écrit, quoi.
Et 3 dernières questions, je voulais savoir si tu avais quelqu'un à me recommander, peu importe son degré de notoriété, quelqu'un que tu connais ou non, pour que j'invite dans mon podcast et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble.
Ah, alors tu sais quoi, j'aurais deux personnes, je peux deux, j'ai le droit.
Sûr.
Allez, on est foufou. Non, première personne, mon copain Arnaud Ducret. Parce que lui, justement, il a de la bouteille, il a fait 12 000 trucs. Donc voilà, c'est, sa vie, c'est un cadavre exquis. Vraiment, c'est assez riche. Et l'autre personne, c'est mon copain qui est producteur, qui s'appelle Jean-Philippe Lemonnier, et avec qui c'est un ami et à la fois un partenaire de travail. Et tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent, Jean-Philippe Lemonnier, qui produit beaucoup de choses diverses et que des trucs un peu exceptionnels. Il produit pas du flux de télé quotidienne, etc. Il fait que vraiment des primes. Le premier prime qu'il a produit tout seul, c'est le prime qu'on avait écrit pour Jeff Panaclock. Tu vois, il produit le prime des Baudins. Il a travaillé pendant des années chez DMLS TV, donc il a travaillé, il a été l'un des directeurs artistiques des Enfoirés pendant très longtemps. Là, on prépare un truc justement avec Arnaud Ducret ensemble. On essaie de fabriquer la télé qu'on a envie de voir, et je pense qu'il a beaucoup de choses potentiellement à te raconter. Ouais.
Question peut-être la plus philosophique, je voulais savoir si, vu que l'heure est un peu à celle des bilans, vu qu'on a retracé ta carrière,
ouais.
S'il y avait quelqu'un dans ton parcours professionnel à qui tu aimerais dire pardon.
Pardon ? Je dirais Kader Aoun. Parce qu'en fait, on a été très très proches. Il y a eu une sorte de petite brouille. Et vraiment, c'est un malentendu, en fait. C'est vraiment un malentendu. Et ça m'embête parce que moi, je ne considère pas être un méchant, bien au contraire. Et ça m'embête. Donc voilà, ça m'embête qu'on ne se parle plus aujourd'hui. Je trouve ça bête. Et voilà, donc là-dessus... reprenons un café avec grand plaisir de mon côté. Ouais.
Et pour terminer cet entretien, je voulais savoir, fort de tous les sujets dont on a abordé, qui jalonnent ta carrière, si à l'instant T, au moment où on se parle, tu avais atteint une sorte de quiétude, de plénitude professionnelle.
Non.
J'en veux toujours plus.
Plus, non, mais j'en veux toujours. Et puis différent. Et puis, c'est le grand avantage que j'ai. C'est y a un côté un peu couteau suisse. Et j'ai encore beaucoup de choses... à faire et que j'ai envie de faire. Et des fois, je repense à celui que j'étais à 18 ans, qui était tellement motivé, qui était prêt à ne pas dormir pendant une semaine s'il fallait, etc. Et du coup, j'essaie de me m'auto-mettre des coups de taser et dire, n'oublie pas ce petit garçon que t'étais qui rêvait de tout ça et ne t'endors pas sur tes lauriers et continue de bosser, parce que je pense que le talent, c'est important, mais le plus important, c'est le travail. Le travail, il faut jamais s'arrêter de bosser si tu veux rester à un niveau très important. Et on l'a vu dans tous les exemples qu'on a donnés, Florence Foresti, Michel Drucker, Jérôme Commandeur et tout, c'est le travail, le travail, le travail.
Ben merci beaucoup, Tom.
Bah, merci à toi.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Tom Villa. Si vous voulez soutenir le projet... Vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.